sur la côte vendéenne. Il est 21h.
Neptune FM.
Écoutez et découvrez. Jusqu'à 22h, Asian Bubble. Entrez dans la bulle de Loli et découvrez toute la culture asiatique sur Neptune FM.
Ciao, bonsoir, bienvenue sur Neptune FM pour cette nouvelle émission d'Asian Bubble qui va être un peu spéciale cette semaine parce qu'avec le confinement, j'ai eu plein d'avance sur mes lectures. Donc on va faire une émission spéciale édition Cana. Donc on aura 6 volumes différents des éditions Cana. On aura aussi une petite présentation de l'artiste Taiji, un petit point sur les sorties manga de la semaine bien sûr. Et donc on parlera du volume 2 de Jardin Secret, le volume 13 de Blue Spring Ride, le volume 6 de Hat Eli, le volume 3 de Boruto Naruto Next Generations, le light novel. On aura ensuite la présentation de l'intégrale Capitaine Albator et, parce que j'aime beaucoup Albator, vous vous en serez douté, on parlera aussi de la chronique du volume 2 de Capitaine Albator, Dimension Voyage. Voilà. On va donc pouvoir s'écouter tout de suite la première chanson de l'émission, c'est My Dream de Lee Jisoo, et on viendra juste après pour parler de l'artiste Taiji. C'était Lee Jisoo avec la chanson My Dream. On passe maintenant à la présentation de l'artiste Taiji, de son vrai nom Sawada Taiji. Alors, c'est un musicien japonais qui est né le 12 juillet 1966 et qui est décédé le 17 juillet 2011. Il était donc âgé de 45 ans. Il a fait partie des groupes Cloud9, qui est encore en activité donc, en tant que bassiste, Otokaze, qui est en pause en tant que bassiste, Taiji with Evans à la basse, TSP qui est toujours en activité, donc il était à la basse et au chœur, Prowler à la basse, ainsi que X Japan à la basse de 1986 à 1992. Et j'ai envie de vous dire, oui, voilà. Taiji Sawada est un bassiste et guitariste qui a rejoint le groupe X Japan, dont il fut le premier bassiste en 1985. Puis il décide de quitter le groupe pour rejoindre Fatima, puis ensuite Dead Wire, pour enfin retrouver la formation de ICT Japan de 1986 à 1992. Il vit un temps avec Yoshiki, le leader et batteur pianiste du groupe, à Tokyo, au tout début de l'aventure ICT Japan. Durant cette période, il compose quelques chansons pour le groupe telles que Dear Loser, Desperate Angel ou Voiceless Screaming. Il est le bassiste de ICT Japan jusqu'en 1992, puis après une violente dispute avec Yoshiki, il est congédié et remplacé par le bassiste Is. Les circonstances et la raison de son départ sont encore mal connues, mais la version la plus répandue parle d'un refroidissement des relations entre Taiji et Yoshiki et de divergences musicales et vestimentaires. Taiji ne supportait plus le caractère autoritaire de leur leader et voulait une répartition équitable des salaires au sein du groupe. L'argent, toujours l'argent. Après son départ de ICT Japan, il devient brièvement bassiste du groupe mythique Loudness jusqu'en 1994, qu'il quitte ensuite pour fonder DTR, son propre groupe. L'aventure commence bien pour eux, ils sortent leur premier album le 1er juillet 1994. L'ambiance qui s'en dégage est très forte et on se sent complètement dépaysé, transporté dans le monde des cow-boys. Les chansons sont magnifiques, composées pour la plupart par Taiji, ce dernier étant aidé par Mitsuo Takeuchi pour les paroles. La même ambiance est présente dans les deux albums suivants, mais on ne ressent pas de sensation de déjà-vu, car le groupe innove sans changer son style. DTR sort son dernier album Drive to Revolution le 1er août 1996 avant leur séparation. On peut d'ailleurs noter que tous les albums de DTR portent les initiales du groupe dans leur titre. En 1998, Taiji apprend la mort tragique de Hyde, l'un des guitaristes de ICT Japan, et il retrouve les membres du groupe à son enterrement alors qu'il ne les avait plus revus depuis son départ. À ce moment-là, Taiji est bassiste, guitariste et parfois chanteur dans le groupe Otokaze, dont la chanteuse n'est autre que sa sœur. Fondé en 2003, ce groupe est plus orienté pop-rock, ce qui diffère de ce que Taiji avait pu composer jusque-là. En 2007, Taiji reforme le groupe DTR et sort un single du nom de Wisdom Lucifer. Taiji a ensuite été présent en tant qu'invité au concert de ICT Japan, Yokohama and the Nissan Stadium, les 14 et 15 août. Le 15 juillet 2011, Taiji fait une tentative de suicide lors de sa détention à Saipan. Il avait été arrêté à sa descente de l'avion le 11, puis placé en détention. Donc il serait devenu violent lors de l'atterrissage de l'appareil reliant Tokyo à Saipan, suite à une altercation avec une passagère, frappant un hublot, donnant des coups de pied dans le siège avant, et il aurait même agressé une hôtesse de l'air qui tentait de le calmer. Donc il a été transporté d'urgence à l'hôpital et placé en soins intensifs, mais il décédera à l'hôpital le dimanche 17 juillet 2011, suite à cette tentative de suicide. Voilà. Donc du coup, comme il n'a rien fait vraiment en solo, il a surtout participé à plein d'autres groupes, j'avais envie de vous passer des musiques de ICT Japan. Donc du coup, on va pouvoir s'écouter deux musiques de ICT Japan. On commence avec Sadistic Desire et on reviendra juste après pour la chronique du volume 2 de Jardin Secret.
Come on.
Asian Bubble. Découvrez toute la culture asiatique sur Neptune FM.
C'était Ik Japan avec la chanson Joker. On passe maintenant à la chronique du volume 2 de Jardin Secret. Alors, je rappelle que c'est un shoujo de genre comédie, romance, vie scolaire, tranche de vie qui a été écrit par Amitsu et prépublié dans le Besatsu Friend. La version japonaise est parue aux éditions Kodansha avec un total de 8 volumes, la série étant toujours en cours. Et la version française est parue aux éditions Kana avec pour le moment 4 tomes de sortie. Ce volume 2 est paru le 5 juillet 2019 au prix de 6,85€. Le résumé, lors de la visite d'un champ de tournesol, Akira parle de sa famille à Ran en dégustant le repas qu'elle a soigneusement préparé. Sentant qu'il se rapproche et désireuse de le revoir, Ran lui propose une autre sortie pendant les vacances d'été. Cette fois, c'est pour admirer les feux d'artifice en yukata qu'elle retrouvera Akira. Lycéenne si belle, si sportive et si douée en cours que tout le monde la met sur un piédestal à son grand âme, Ran a enfin trouvé en Akira un camarade de classe, quelqu'un qui la considère normalement, n'hésite pas à s'approcher d'elle et à rire naturellement avec elle. Adorant les fleurs, aidant ses parents à la boutique de fleurs familiales et voulant lui-même devenir fleuriste, le jeune garçon est lui aussi heureux de pouvoir parler normalement à quelqu'un de sa passion, qu'il a toujours préféré cacher jusqu'à présent. C'est ainsi que petit à petit, Akira fait découvrir son petit univers floral à Ran et que tous deux semblent se rapprocher au point que la jeune fille, sans rendre compte, commence à vouloir être toujours plus près de lui. Après la visite d'un champ de tournesol dans le tome précédent, les deux adolescents continuent dans ce deuxième volume de se fréquenter, parfois même sous l'impulsion de Ran, et de se dévoiler l'un à l'autre. Ainsi se suivent à chaque chapitre différents instants de vie importants aussi bien pour l'un que pour l'autre. Une sortie à deux dans un festival, une fête sportive mouvementée, Ran qui propose d'apporter son aide dans la boutique familiale d'Akira, puis qui fait connaissance avec la mère de ce dernier. Chaque chapitre est l'occasion, tout doucement, de mettre en avant une nouvelle fleur ou plante, azalée, olivier odorant, rose, pensée, etc. Sans en faire trop, la mangaka Amitsu parvient toujours à imprégner son récit de ces ravissants végétaux en mettant discrètement en avant leur signification dans le langage des fleurs ou tout simplement le rôle essentiel qu'elles occupent dans la consolidation de la relation entre nos deux héros. Mais surtout, malgré quelques événements un peu clichés du genre, l'autrice s'applique toujours pour faire évoluer à petite dose au fil des événements cette relation déjà assez forte qui unit Akira et Ran. Au point que la jeune fille ose elle-même proposer un rendez-vous ou offrir son aide et que l'adolescent lui fait découvrir certaines facettes qu'il préférait cacher comme l'état de santé de sa mère, une femme qui régale dès sa première apparition par sa passion et son énergie, ou encore les moqueries qu'il a pu subir par le passé car il a soi-disant une passion qui n'est pas faite pour les garçons. Chacun de ces deux jeunes gens se fait de plus en plus attachant, on prend facilement plaisir à les voir évoluer ensemble, se dévoiler, avoir des petites réactions touchantes, mignonnes ou amusantes, faire attention l'un à l'autre. Jardin Secret confirme ici la très bonne impression du premier tome et on espère bien que ça durera, tant cette série est bien partie pour avoir toujours plus de charme. Voilà, donc Jardin Secret à retrouver aux éditions Kana. On va tout de suite écouter une autre chanson, c'est Not In Love de Lee Min Ki, et on viendra juste après pour la chronique du volume 13 de Blue Spring Ride.
And we were lovers. Now we come.
Donc c'était Lee Min Ki avec la chanson Not In Love, et pourtant on va parler d'amour maintenant avec la chronique du volume 13 de Blue Spring Ride. Donc je rappelle que c'est un shoujo de genre drame, romance, tranche de vie, vie scolaire, qui a été écrit par Sakisaka Yo et prépublié dans le Betsuma. La version japonaise est parue aux éditions Shueisha avec un total de 13 volumes qui terminent la série, et la version française est parue aux éditions Kana avec également 13 tomes. Donc ce volume 13 est sorti le 1er juillet 2016 au prix de 6,85€. Le résumé, et si nous prenions un nouveau départ? Futaba et Ko sont enfin ensemble. Les relations entre Shuko, Kominato et le professeur Tanaka prennent également une nouvelle tournure. Ko va prendre une grande décision. Voici le dernier volume d'une histoire d'amour de jeunesse vécue avec passion. Au bout des épreuves, Futaba et Ko se sont enfin trouvés et sortent désormais ensemble. Et même s'ils ont quelques craintes dans le début de leur relation et qu'ils doivent prendre le temps de bien se comprendre, une chose est sûre, leur amour est sincère et plus rien ne devrait pouvoir le briser. Pour notre couple vedette, ce 13e et dernier volume forme surtout une sorte d'épilogue. Maintenant qu'ils sont enfin ensemble, Yo Sakisaka nous invite à suivre les tout premiers pas de leur relation de jeune couple, où ils affirment leur amour, leur relation, ils continuent de se découvrir petit à petit, parfois avec maladresse, parfois avec humour, à l'image du passage où on découvre le nom du chat de Ko, et non sans quelques petites inquiétudes pour une Futaba qui se montre délicieusement exclusive. Quant au choix final de Ko, il concrétise joliment toute l'évolution du jeune homme et l'on ressent bien que ces deux-là deviendront un couple solide. En parallèle, on appréciera beaucoup l'attachement que Yo Sakisaka porte à l'évolution de certains de ses personnages secondaires. La relation entre Shuko et Kominato, bien sûr, prend une tournure aussi attendue que plaisante, tant la sincérité et les petites faiblesses et tourments du blondiné le rendent attachant, tandis que Murao a bien conscience de ses qualités. De même, l'évolution du professeur Tanaka, bien qu'assez en retrait, s'avère sympathique. En revanche, on aurait aimé un dernier petit focus, un épilogue sur certains autres personnages, comme Yuri et Thomas. Quoi qu'il en soit, c'est une conclusion soignée que nous offre la mangaka, toujours aussi bavarde et plaisante à lire dans ses différents mots. Sur une base classique, elle a su développer avec justesse, douceur, romantisme et bienveillance des personnages attachants, pour un résultat qui s'achève globalement sur une bonne note. Notons que Blue Spring Ride s'achève en réalité après 130 pages, le reste de ce tome, donc entre 40 et 50 pages, étant consacré à une histoire annexe de Strobe Age, donc une petite histoire qui est sympathique à suivre si on connaît la série précédente de Sakisaka, mais qui n'a pas vraiment d'intérêt dans le cas contraire, donc si vous ne la connaissez pas, vous serez un petit peu perdu. Donc, vous n'avez plus qu'à aller la lire aussi. Voilà, donc Blue Spring Ride à retrouver en 13 tomes aux éditions Kana. On va s'écouter tout de suite le premier opening de l'anime Ao Haru Raido. C'est Sekai wa Koini Ochiteiru de Chico en featuring avec Oniworks, et on viendra juste après pour les sorties manga de la semaine. Sekai wa Koini Ochiteiru Hikari no Yamune wo Sasu Kimi wo Wakaritai da yo ne Oshiete
ちがいるよ初めての感情を言葉にリンクする体温計壊れちゃったかな自分のことわからないままあの子にアドバイス真似しちゃって胸が痛いや
en featuring avec Oni Works pour la chanson Sekai wa Koi ni Ochiteiru qui a servi de premier opening pour l'animé Ao Haru Raido. On passe maintenant aux sorties manga de la semaine. Donc on aura des sorties demain, mardi 9 juin chez Hot Manga avec le volume 1 de Je pense à toi et le volume 1 de Ne te retourne pas et aux éditions Atelier Akatombo, on aura la sortie du volume 1 de série. Ensuite, pour mercredi 10 juin, chez Doki Doki, on aura le volume 5 de 50 nuances de gras. Le volume 7 de Classroom for Heroes. Le volume 11 de Mushoku Tensei. Les volumes 1 et 2 de Second Summer Never See You Again. Donc une série qui est terminée en deux tomes. Le volume 14 de The Rising of the Shield Hero. Et le volume 2 de Why Nobody Remembers My World. Aux éditions Delcourt Tonkam, on aura la sortie du volume 5 de A Fantasy Lazy Life, le volume 1 de Golden Ship, le volume 9 de Infection et le volume 2 de Maison Ikoku, la Perfect Edition. Aux éditions Pika, on aura le volume 7 de Bakemonogatari, le volume 32 de Chiayafuru, le volume 5 de Fairy Tail 100 Years Quest et le volume 6 de L'Atelier des Sorciers qui sera en édition normale et en édition collector. Aux éditions Panini, on aura le volume 8 de Dogs, Bullets and Carnage et le volume 8 de L'Amour à l'excès. Et aux éditions Kaze, on aura le volume 21 de Rikudo et le volume 14 de The Promised Neverland. Jeudi 11 juin, ensuite, on aura aux éditions Kiun le volume 3 de Aria, donc ça sera l'édition de luxe de Masterpiece. Le volume 18 de Golden Kamui, le volume 2 de Guess What et le volume 8 de Root End qui sera le dernier tome de la série. Aux éditions Manabooks, j'ai trouvé la coïncidence assez drôle. On aura le volume 1 de Assassin's Creed Blade of Shao Jun, que je suis en ce moment en train de faire. Et on aura aussi le volume 5 de Final Fantasy Lost Stranger. Aux éditions Komiku, on aura le volume 4 de Créatures Fantastiques, le volume 3 de Noble New World Adventures et le volume 1 de The Wise Wise Beasts of the Wizarding Wisdom. Voilà, beaucoup de whiz. Aux éditions Akata, on aura le volume 4 de Canon au bout du monde, le volume 1 de My Dear Neighbor et le volume 1 de À tes côtés. Aux éditions Cornelius, on aura le volume 1 de Peuple Invisible et aux éditions Hot Manga, ça sera le volume 1 de Sokwiki et le volume 1 de Yurizis Chronique NTR des sœurs Sakuramiya. Les dernières sorties de la semaine, ça sera pour vendredi 12 juin avec aux éditions Kana le volume 2 de 5 Minutes Forward, le volume 2 de Asadora, le volume 5 de Bloom Into You, le volume 14 de Fire Force, le volume 61 de Gintama, le volume 5 de Koro Quest, le volume 10 de Love Be Love, Leave Be Left, le volume 7 de Smoking Parade, le volume 3 de Un Petit Ami Trop Parfait, le volume 3 de Versailles of the Dead et le volume 43 de Zeta et Karen Children. La dernière sortie de la semaine, ça sera aux éditions Chato Chato avec le volume 1 de Dragon Metropolis. Voilà, on va donc s'écouter tout de suite une autre chanson, c'est Via Dolorosa de Leprika et on reviendra juste après pour la chronique du volume 6 de Hat Ellie. Donc c'était Leprika avec la chanson Via Dolorosa. On passe maintenant à la chronique du volume 6 de Hat Ellie. Donc je rappelle que c'est un shoujo de genre comédie, romance, vie scolaire qui a été écrit par Fujimomo et prépublié dans le dessert. La version japonaise est parue aux éditions Kodansha avec un total de 11 volumes, la série étant toujours en cours. Et la version française est parue aux éditions Kana avec pour le moment 7 tomes. Donc ce volume 6 est sorti le 8 novembre 2019 au prix de 6,85€. Le résumé de ce tome, Eriko Ichimura, alias Ellie, aime murmurer des fantasmes à propos du plus beau garçon de sa promo, Akira Omi. Après avoir passé Noël et le premier jour de l'année ensemble, les deux ados forment désormais un vrai couple d'amoureux. Ellie est donc sur son petit nuage, elle utilise son smartphone en plein cours et se le fait confisquer par un professeur. Punie, elle doit alors accomplir des tâches avec Kaname, un garçon de sa classe. À cause d'une réaction déplacée, mais involontaire de Kaname, Ellie est blessée. Et Kaname lui demande alors d'être son ami. Alors, ce volume fait la part belle au quiproquo et au non-dit, à commencer par cette demande de Kaname qui souhaite qu'Ellie devienne son ami. La maladresse du premier et l'imagination de la deuxième font que la demoiselle est persuadée que Kaname est en train de lui faire du chantage pour qu'elle accepte de devenir son ami et que si jamais elle refuse, il dévoilera à tous son secret. Donc à savoir qu'elle est en réalité Ellie folle d'amour sur Twitter. Nous avons ensuite la situation avec Sarah qui ne comprend pas pourquoi Ellie ne lui parle pas de tout ce qu'elle a sur le cœur, se demandant si elle est bel et bien sa meilleure amie. Après un petit coup de déprime pour elles deux, Ellie franchira finalement le pas pour qu'elles se réconcilient, ce qui nous vaudra une belle tranche d'humour lors de leur préparation des chocolats pour la Saint-Valentin. Saint-Valentin qu'Ellie va bien évidemment passer avec Omi, nous offrant un vrai moment de tendresse de petit couple qu'ils sont maintenant officiellement. Mais forcément, les choses ne vont pas toutes continuer à aller dans le bon sens, puisque la jalousie d'Omi va se réveiller quand il va entendre parler de Kaname et du soi-disant chantage qu'il exerce sur Ellie. Après un rendez-vous à trois dans un café pour mettre les choses au clair, celle-ci s'embrouille encore davantage quand Kaname se rendra compte qu'il ressent peut-être quelque chose de vraiment fort et de spécial pour Ellie. Le prochain tome annonce donc le début d'une magnifique relation triangulaire. Voilà, donc Hat Ellie à retrouver aux éditions Kana. On va s'écouter tout de suite une autre chanson, c'est Sin de Liqueur. Et on viendra juste après pour parler du volume 3 du light novel de Boruto, Naruto Next Generations. Every time Donc c'était Liqueur avec la chanson Sin. On passe maintenant à la chronique du volume 3 du light novel Boruto Naruto Next Generations. Donc je rappelle que c'est un light novel de genre action-aventure-comédie qui a été écrit par Kodachi Ukyo, illustré par Ikemoto Mikio d'après l'œuvre originale de Masashi Kishimoto. La version japonaise est parue aux éditions Shueisha avec un total de 5 volumes, la série étant toujours en cours. Et la version française est parue aux éditions Kana avec pour le moment 4 tomes de sortie. Ce volume 3 est paru le 15 février 2019 au prix de 8,75€. Le résumé du tome, l'affaire des spectres fait trembler le village de Konoha. L'identité du coupable sera-t-elle enfin révélée ? Aidé par le mystérieux pouvoir de sa pupille, Boruto va affronter Nue, la terrible créature, dans une autre dimension. Une nouvelle génération de shinobi délivrera Konoha de sa part d'ombre. C'est donc le troisième tome du light novel qui va clore le premier arc concernant l'affaire des spectres et la créature voleuse de chakra appelée Nue. Le précédent tome nous avait laissé sur un gros suspense quant à l'identité du coupable et il ne nous faudra pas plus de quelques pages dans ce nouveau volume pour découvrir son identité. Et autant dire que c'est plutôt une grosse surprise. Qui aurait pu soupçonner la petite déléguée de la classe toute timide qui manque de confiance en soi ? Ici, nous avons droit à l'apparition de Nue dans la dimension de nos héros et nous avons même le plaisir de retrouver les personnages de notre jeunesse pour ce combat de titans, avec notamment Naruto, bien sûr, puisqu'il s'agit du Hokage, mais aussi Sai, qui aura enquêté sur toute cette affaire, ainsi que Kakashi, précédent Hokage et ancien maître de Naruto. Mais ce ne sont pas eux qui auront la part belle, puisque nous ne sommes plus dans l'histoire de Naruto, mais bien dans celle de Boruto, son fils. Nous le suivrons donc en compagnie de Mitsuki dans la dimension de Nue, où nous découvrirons le passé de Sumire, ainsi que les raisons qui l'ont poussé à agir de la sorte. Et forcément, comme il faut s'y attendre, tout est bien qui finit bien. Voilà, donc le light novel Boruto Naruto Next Generations à retrouver aux éditions Kana. On va s'écouter tout de suite la chanson Baton Road de Kanabun qui a servi de premier opening pour l'animé Boruto Naruto Next Generations. Et on viendra juste après pour parler du manga Capitaine Albator. Donc c'était Kanabun avec la chanson Baton Road qui a servi de premier opening pour l'anime Boruto Naruto Next Generations. On passe maintenant à la fin de l'émission spéciale Albator avec la présentation en premier de l'intégrale de Capitaine Albator du titre original Uchu Kaizoku Captain Harlock. Alors c'est un seinen de genre action-aventure-science-fiction qui a été écrit par Matsumoto Leiji et pré-publié dans le Play Comic. La version japonaise est parue jadis naguère. En 1977, aux éditions Akita Shoten, avec un total de 5 volumes qui terminent la série. Et la version française est parue le 11 mai 2002. Imaginez le temps que ça a mis pour venir jusqu'en France. Aux éditions Kana, donc, avec également 5 tomes. L'intégrale de la série est ensuite parue le 6 décembre 2013 dans leur collection Sensei. Vous pourrez retrouver Capitaine Albator dans le commerce pour un prix de 6,85€ pour la version d'origine ou de 25€ pour cette édition intégrale réunissant donc les 5 tomes. L'âge conseillé pour le lire est de 12 ans et plus et il existe de nombreuses adaptations en animé, en film, ainsi que des histoires supplémentaires, des spin-offs et des versions alternatives en manga. Le résumé de cette série, en de grâce de 1977, lorsque toutes les mers du globe eurent disparu, les hommes pensèrent que la fin du monde était arrivée. Ils s'apitoyèrent sur leur sort, sans même songer à l'espace infini qui s'étendait au-dessus de leur tête. Seule une poignée d'hommes croyaient en l'avenir radieux du genre humain, eurent le courage d'aller explorer la mer du dessus. Alors les autres ricanèrent en disant « Ce sont des fous qui courent après un rêve irréalisable. Et nous avons été considérés comme des hors-la-loi. » Voilà. Bon, si vous connaissez pas, hein, va falloir vous lancer parce que c'est quand même culte. C'est vieux, c'est pas très beau, je vous l'accorde, mais c'est culte. Voilà. Donc, l'intégrale de Capitaine Albator à retrouver aux éditions Kana. Forcément, vous vous en doutez, on va s'écouter un petit générique d'Albator. Bon, la version française, parce que c'est quand même cool. Eric Chardin avec Albator, le corsaire de l'espace. Et on viendra juste après pour la chronique du volume 2 de Capitaine Albator, Dimension Voyage. Ça vous donne pas envie de regarder l'animé ou même de lire le manga, je ne comprends plus. Donc c'était Eric Chardin avec la chanson Albator, le corsaire de l'espace. On enchaîne encore avec du Albator. On va parler du volume 2 de Capitaine Albator, Dimension Voyage. Donc si vous avez envie de vous lancer un peu dans la série, mais que ça vous rebute un petit peu d'avoir les vieux dessins de 1977, les dessins d'origine, ceci dit, vous pouvez toujours donc vous lancer dans Dimension Voyage, qui reprend la trame du coup de la série d'origine, mais avec des dessins plus récents. Alors, du coup, je rappelle que c'est un shonen de genre action, aventure, drame, science-fiction, qui a été écrit par Matsumoto Leiji, dessiné par Shimabushi Kuiti, traduit par Frédéric Mallet et prépublié dans le Champion Red. La version japonaise est parue aux éditions Akita Shoten avec un total de 10 volumes qui terminent la série, et la version française est parue aux éditions Kana avec pour le moment 9 tomes de sortie. Ce volume 2 est paru le 1er juillet 2016 au prix de 7,45€, et je rappelle que la série est pour public averti à cause de la violence modérée. Alors, plus que jamais décidé à combattre les Sylvidres, Tadashi Daiba rejoint l'équipage de l'Arcadia. Au cours des nombreuses batailles qui l'attendent, il va apprendre à devenir un homme, un vrai, et il pourra rejoindre le clan de Sam. Alors, cet album est assez déstabilisant parce qu'il ne s'y passe pas grand-chose et qu'il se lit très vite, un peu comme tous les autres tomes, ils sont assez fins. Alors, on a surtout l'impression qu'il est important puisqu'il permet en première partie de revenir sur la rencontre entre Albator et Toshiro, le créateur de la nouvelle version du vaisseau Arcadia, un vaisseau dans lequel il a mis toute son âme. Mais le récit n'insiste pas vraiment sur cette dernière notion qui semble devoir être lue au sens propre et non au sens figuré. Donc c'est un passage qui semble avoir pour vocation de lever le voile sur le passé d'Albator, mais qui n'ira pas au bout de l'exercice et perd donc de sa force. On revient ensuite sur le jeune Daiba, qui a donc rejoint l'équipage d'Albator. Là encore, il ne se passe rien, et ce passage, un poil plus long que le précédent, semble avoir pour unique but de montrer que l'équipage d'Albator est très soudé, ce qui en fait sa principale force. On retrouve ainsi la tonalité du premier tome, où Daiba débarquait dans ce nouvel environnement et faisait la connaissance de personnages divers, qui avaient l'air de tout sauf de pirates redoutables. Un autre court passage est ensuite dédié à une mise à l'épreuve de Daiba par Albator lui-même. Cette phase d'action est malheureusement traitée trop rapidement pour affirmer sa marque. On se retrouve ainsi avec un tome qui ne fait pas avancer le scénario d'un pouce et qui semble bien statique, sans réelle nouveauté. On retrouve également ce dessin qui fait le grand écart entre un réalisme parfait lorsqu'il est question des environnements ou des vaisseaux, et le gros n'importe quoi lorsqu'il est question de représenter les membres de l'équipage de l'Arcadia, la silhouette longiligne d'Albator se situant quelque part entre les deux, costume parfaitement détaillé mais proportions du corps un peu artistiques. Bon, j'ai envie de dire, déjà les dessins de base sont assez artistiques aussi, hein. Donc voilà. Il serait maintenant temps que l'on entre dans le vif du sujet, parce que là, on s'ennuie quand même un petit peu. On veut du combat et des Sylvidres, c'est tout. Voilà, donc Capitaine Albator, Dimension Voyage, à retrouver aux éditions Kana, et c'est ce qui finit l'émission de cette semaine, qui était donc dédiée aux éditions Kana avec toutes mes petites lectures. Pour finir l'émission, on s'écoutera le générique Albator 84, interprété par Franck Olivier. Demain matin, vous retrouverez Roland pour l'émission Bonjour de 10h à 11h30. Et moi, sinon, vous pourrez me retrouver, a priori, vendredi prochain, de 18h30 à 19h pour l'émission Cordialement Geek. Sinon, ça sera comme d'habitude, lundi prochain, de 21h à 22h pour une nouvelle émission Asian Bubble. Sur ce, je vous souhaite une bonne soirée, une bonne semaine et à bientôt!
Voilà, Albator, le capitaine corsaire. Il revient, Albator, pour les enfants de la terre. Le voilà, Albator, le capitaine corsaire. Il revient, Albator, pour les enfants de la terre. Avec son bandeau sur l'œil, avec sa joue balafrée, avec le plus grand des cœurs, Albator s'est embarqué sur le pont de son vaisseau, frappé dans sa cape noire. Il nous revient bien plus beau qu'il était dans nos mémoires. Voilà, Albator, le capitaine corsaire. Il revient, Albator, pour les enfants de la terre. Le voilà, Albator, le capitaine corsaire. Il revient, Albator, pour les enfants de la terre. Il a laissé en chemin sur une étoile lointaine une fille aux cheveux fins qu'il retrouvera fidèle. À travers les galaxies, a planté son drapeau noir. Partout il a des amis. Il